Bonjour et bienvenue à Escale 17-18 avec Fulgence Blas au micro. À la technique, Nicolas, pour la première partie de l'émission. Aujourd'hui, c'est mercredi, bien sûr, le 15 décembre. Voilà, le chroniqueur de plein air et de loisirs, Stéphane Baudry, est avec moi en studio. Et puis, bon, ben, deuxième partie d'émission, nous allons recevoir Geneviève Lavoie qui va nous parler des traces d'animaux du Québec. Les traces d'animaux dans les forêts. Voilà. Si vous voulez savoir plus, restez à l'écoute. À partir de 17h30, après la première pièce musicale de la deuxième partie de l'émission, on va rentrer dans les détails. On va en musique avec Hera Ménard, qu'en décembre, puisqu'on y est.
Quand décembre frappe à la porte, douce et tendre mémoire à ses bottes de neige blanche, recouvrant les toits et une trêve en silence, un baume sur mon cœur de bois. Quand décembre fait apparaître un étang de givre à nos fenêtres, un frisson du vent, une fleur nous doit retourner un instant, se remettre à l'abri du froid. Où lentement les odeurs se mélangent entre le feu de bois, le sapin et l'orange, on se sent. Ses lumières en guirlande de rouge et de vert, je revois clair vieux souvenirs et des chansons d'hiver et de Noël avec toi. Et lentement les odeurs se mélangent entre le feu.
Oui, c'était Hera Ménard, qu'en décembre. Voilà, on va parler tout de suite un peu de plein air du parc Maisonneuve avec Stéphane Baudry. Bonjour Stéphane.
Bonjour Fulgence, comment ça va?
Je vais très bien, même si on sent déjà l'odeur de Noël et du jour de l'an.
Nous sommes en décembre.
Attention, on est là jusqu'au 22, hein. On travaille le dernier jour d'antenne, c'est le 22 décembre. Mm-hmm. Donc à partir du 23 décembre jusqu'au 3 janvier 2022, nous allons nous reposer un peu et puis on revient le 4 pour être en pleine forme. Hein. C'est l'émission qui va continuer comme ça. Alors, tu nous as choisi aujourd'hui le parc Maisonneuve.
Mm-hmm.
Alors,
faut savoir
pourquoi ce choix?
Il faut savoir que le 11 août 1923, il y a eu le golf municipal de Montréal qui a été inauguré par le maire de l'époque, Médéric Martin. C'était un grand golf. C'était délimité à l'ouest par les terrains du noviciat des frères des écoles chrétiennes, qui sont devenus éventuellement jardin botanique.
Ah!
Oui. Il y a même eu l'omnium...
C'est comme ça que c'est parti, quoi.
C'est ça. Il y a même eu l'omnium canadien en 1967, évidemment avec tout le cadre de l'Expo 67. Alors, on a eu les champions
67,
de golf ici. Alors, c'était vraiment bien. Il a fallu qu'ils ajoutent... On était rendu à 36 trous. Alors, c'était beaucoup de terrain.
Oui.
terrains qui sont devenus éventuellement, en 1973, les terrains ont été fermés pour pouvoir faire les installations olympiques.
Oui.
Et la partie sud a été utilisée pour réaliser le village olympique et la section ouest est devenue éventuellement un parc.
Ah.
Le parc Maisonneuve tel qu'on le connaît actuellement. Il reste encore une petite partie du golf municipal à l'est, un parcours de 9 trous et un terrain d'entraînement accessible par la rue Viau. Chose qui est intéressante à savoir.
C'est payant ça, c'est pour aller jouer au golf.
Oui, mais c'est très abordable. Donc c'est quand même beaucoup plus abordable, disons, que les clubs privés. Ça avait été fait pour ça.
Ah, bon, d'accord.
C'est intéressant de savoir que quand ça a été créé en 1923, les clubs de golf étaient surtout anglophones et privés et très, très, très chers. Et quand le golf municipal est arrivé dans l'est de Montréal, ça a intéressé beaucoup, beaucoup de francophones au sport.
Donc, c'est l'un des premiers.
Exactement.
OK. Ouais, ouais. Peut-être même le premier.
Pour les francophones,
pour les francophones, je veux dire. Ouais.
Mm-hmm. C'est ça. Alors, qu'est-ce que c'est? On parle d'un parc de 63 hectares offrant de grandes étendues gazonnées, traversées par de nombreuses pistes piétonnières asphaltées. Il y a des arbres aussi, il y a des petits vallons, mais c'est très doux. L'hiver, c'est des pistes de ski de fond, de raquettes et aussi une grande patinoire. C'est un grand anneau avec un endroit d'entraînement pour ceux qui sont moins habitués à patiner.
C'est un grand parc, quand même.
Oui, c'est un grand parc. C'est surprenant de voir ça.
Mm-hmm.
Le chalet est au 4601 rue Sherbrooke, Est à Montréal.
Oui.
C'est l'ancien chalet des golfeurs, mais maintenant qui n'est plus rendu dédié seulement à eux.
Oui.
Et c'est juste à côté, comme je disais, les installations olympiques.
Donc les gens qui vont se promener là-bas dans le parc n'ont pas droit à ce chalet, sauf les golfeurs, ceux qui vont
faire maintenant, oui. Maintenant, oui. Mais sauf que là, présentement, il est fermé à cause de la COVID.
Oui,
mais
oui.
Normalement, les gens ont accès, là.
Ah, ce maudit virus. Permettez-moi le terme. Oui, oui, ce maudit virus.
Mm. Oui, on le ressent plus que jamais présentement.
Mm.
Alors, le parc se longe le Jardin botanique de Montréal. Alors, ça se trouve être à l'est du Jardin botanique.
Oui.
C'est jusqu'à Viau, c'est le parc Maisonneuve.
Oui.
Alors, c'est vraiment... On peut se rendre facilement. En voiture, il y a une aire de stationnement payante. C'est autour de 12 $ la journée.
Mm.
Mais aussi, on peut stationner tout le long... on peut stationner ce week-end. On s'est stationné sur le long de la rue Viau et c'était gratuit.
Mmh.
Et on pouvait aller se promener comme ça dans le parc. Le transport public, mais c'est métro Viau. C'est vraiment juste à côté. Mais si on veut, on peut prendre aussi l'autobus 132 du métro Viau.
Ça, c'est sur la ligne verte?
C'est ça, exactement.
Oui, oui.
Alors, c'est juste à l'est de Pinneuf.
Ouais.
Alors, on prend ça et c'est vraiment juste à côté.
Mmh.
Il y a aussi une navette à partir du métro Viau du parc olympique qui mène au biodôme puis à l'entrée du parc Maisonneuve. Pourquoi on va là? C'est vraiment intéressant. C'est des grands terrains ouverts. On peut faire des activités. Les gens peuvent jouer au ballon, peuvent faire des pique-niques, peuvent faire des barbecues.
Il faut préciser, c'est le bus 132. Hein?
C'est ça, c'est le bus 132.
Ouais. Oui, oui. Mm-hmm. Pour que les gens qui nous écoutent, qui disent, si j'arrive là au métro Viau, c'est quel bus qui m'emmène là-bas?
Exactement.
C'est le bus 132.
Oui,
voilà.
C'est
mm-hmm.
ça. Puis... C'est ça, c'est des grands terrains. On peut admirer la quiétude des lieux en pleine nature. On peut même avoir la chance de rencontrer des renards.
En pleine ville, tu t'imagines. C'est ce parc, c'est la même la beauté de ces parcs de Montréal.
Oui.
Et c'est comme le parc La Fontaine, juste à côté.
Oui.
Et le parc Laurier et Rose, c'est des parcs en pleine ville comme ça. Quand tu te retrouves là, on dirait que tu es un peu à l'extérieur de Montréal, quoi. Et pourtant, tu es en pleine ville.
C'est surprenant. On voit évidemment les installations comme le mât du Stade olympique ou le village.
Oui,
mais
oui,
sinon, on se sent vraiment en pleine forêt,
en
pleine nature. L'hiver, on peut glisser. On peut faire, comme je disais, on peut faire des sports d'hiver. L'été, c'est intéressant. On peut même rencontrer, l'été, ils ont des moutons pour s'occuper de la pelouse.
D'où viennent ces moutons-là? Ils appartiennent à la ville ou bien quoi?
Les moutons,
à l'arrondissement.
L'été, les moutons sont là, ils ont leur petite fermette.
Attention, attention. Ils ont signé un contrat avec des bergers. Je sais comment ça se passe.
Je sais pas le contrat exact, mais je sais que l'été,
il
les moutons
sont là. Il va falloir qu'on se lance pour en parler ici. Alors, je ne sais pas si l'arrondissement a signé un contrat avec des bergers pour pouvoir se déplacer là pour brouter. Hein, parce que...
Mais il avait commencé à m'emmener dans un petit parc, mais ils se sont rendus rapidement compte que les moutons passaient trop rapidement à travers la pelouse du parc. Alors, ils sont allés vers des parcs de plus en plus grands et sont arrivés au parc Maisonneuve.
Excusez-moi si j'en ris parce que là, vraiment, des moutons en plein centre-ville, en pleine ville, en pleine ville de Montréal. Enfin, que maison neuve en été. Uh-huh. J'aimerais bien les voir. Je les adore, les moutons, attention. C'est pourquoi j'ai demandé s'ils ont, si l'arrondissement signait un contrat avec les bergers de la région, non loin de Montréal, pour dire, bon, là, en été, vous venez ici avec vos moutons, vos troupeaux de moutons, là, pour
c'est super idée.
Nettoyer un peu le parc.
Les gens vont là pour voir les moutons, vont là pour. Ils cherchent les moutons dans le parc et les enfants aussi.
Oui. Oui, oui, oui. Vas-y, vas-y, continue, continue.
Puis les sentiers, comme je disais, sont très beaux.
Oui,
sont...
ça vient d'où?
Eh bien, j'ai de l'information sur les moutons.
Oui, vas-y.
Dans le fond, les moutons font partie du projet Biquette, qui est une initiative urbaine visant à faire de l'éco-pâturage dans les espaces verts publics.
Ah bon?
Donc, c'est une initiative organisée.
Ah bon, d'accord, ok. C'est bon? Alors, on n'a pas besoin d'aller faire dur. Merci beaucoup, Nicolas. Non, ça permet quand même de savoir, parce que d'où viennent ces moutons? Ils tombent pas tout d'un coup, mais les bergers, ils viennent d'où? Voilà, c'est un projet. En collaboration avec les arrondissements pour pouvoir parcourir les parcs de Montréal. Voilà. Ouais. En gros. J'ai fait le résumé comme ça.
Ah, c'est bon.
Voilà. Merci, Nicolas.
Ouais. Comme je disais, à travers la plaine, à travers les plaines, mais ils ont des parcours asphaltés. Mmh. Alors, les gens qui sont à mobilité réduite, où c'est vraiment parfait pour pouvoir se promener. Mmh. On s'entend aussi que l'hiver, on retrouve la plus grande patinoire de l'Est de Montréal. C'est à proximité du chalet d'accueil, dont l'adresse que je vais donner, 4601 Sherbrooke-Est.
L'Est de Montréal en hiver.
Oui, de l'Est.
Ouais. Wow!
Et c'est illuminé en soirée. Mmh. Puis il n'y a pas de tarif pour pouvoir profiter de la patinoire.
Ça veut dire que...
Ça veut dire que le parc est gratuit. Il y a un tarif si on veut stationner absolument dans le stationnement à côté, mais si on stationne autour et tout, ça ne coûte rien.
Pour patiner, c'est gratuit.
Oui.
Ah d'accord, ok. Non, il faut que ça soit clair pour nos auditeurs. Moi, je vois première, c'est gratuit. Voilà.
Ouais, c'est ça.
Parce que quand on parle de parc, la plupart du temps, il y a beaucoup de choses, pas mal de choses. L'entrée est payée, alors que ça, là, c'est gratuit.
Exactement.
On est en pleine ville, là, on peut faire payer les gens.
En pleine ville, pas loin du métro, puis on peut aller se promener là, hiver comme été, et profiter des choses qu'il y a là.
Ouais.
C'est de 6h à minuit. Par contre, faut faire attention, je sais que les toilettes du parc, du chalet, sont ouvertes de 9h à 20h. Alors, il faut quand même prendre ça en considération.
Ah, il faut se vider les vessies avant de partir. Non, c'est vrai. Avant de se rendre au parc, si on va là-bas, puis jusqu'à minuit, il faut s'arranger, quoi. Voilà, sinon...
Le site web, c'est Montréal.
Merci de la précision.
Non, mais c'est important, moi, je trouve. Ça peut être important, surtout le soir.
Stéphane, je te laisse aller.
Le site web, pour avoir l'information, c'est montréal.ca.
Oui.
/ lieu, avec au pluriel, avec le X. / parc, trait d'union, Maisonneuve.
Oui. Oui, les gens en fauteuil roulant, comme tu l'as dit.
Oui, c'est vraiment plat. Il y a des petites buttes, mais c'est pas nécessairement où est-ce que les sentiers. Mais il va y avoir, parce qu'on s'entend que c'est un ancien golf. Alors, c'est les vallons et les petits étangs, et tout, comme pour un golf.
Oui, je vois. Pour conclure.
Alors, c'est très accessible et très bien desservi par les transports publics. C'est à deux pas du stade des installations olympiques.
Oui.
Alors, c'est un vaste îlot de verdure au beau milieu de la ville. Et c'est l'endroit parfait pour une douce promenade en amoureux, des jeux extérieurs entre amis, un pique-nique en famille ou la pratique de sport comme
le amoureux,
ski de fond.
Oui, s'il existe encore des amoureux qui peuvent se permettre de se balader bras dessus avec la pandémie, les gens n'ont même plus le droit de se faire des accolades. Voilà, j'espère que tout ça va revenir.
On trouve toujours l'occasion.
Merci. Voilà.
Merci.
Pique-nique en famille.
Oui, il y a le fat bike. Il y a des gens qui font du fat bike, là.
Oui.
Il y a beaucoup de gens qui font, même ce week-end,
c'est
beaucoup de gens
couraient. C'est les vélos aux grosses roues. Là,
exactement.
Gros pneus, là, voilà, c'est ça en gros. Oui.
Et il y avait plusieurs personnes qui faisaient du jogging aussi ce week-end.
Oui.
Même si c'était quand même assez glacé.
Oui. La raquette, fat bike, jogging, tout ça.
C'est ça.
C'est fini.
Oui.
Merci beaucoup, Stéphane. Merci. On se voit la semaine prochaine pour la dernière chronique de la saison, de l'année.
Mm-hmm.
Et t'as pas besoin d'aller chercher trop loin. On va avoir du fun, du plaisir, juste pour ce. Je vais profiter de l'occasion pour vous dire merci à tous les membres. Toi, tu fais partie de l'équipe, à tous les membres de l'équipe. On va passer une bonne demi-heure ensemble. Je vais te garder jusqu'à la fin de la première demi-heure et la semaine prochaine. Parce que tu ne fais pas le déplacement, tu seras chez toi.
Oui.
Voilà. Tu n'as pas besoin de dire, ah tiens, il faut que je parte au métro, au voilà, au bus, au machin, au train. Merci beaucoup à toi de la belle collaboration.
Un énorme merci.
On se retrouve pour la dernière de la saison de l'année, la semaine prochaine.
Oui.
À partir de chez toi.
Oui.
Dans ton... Voilà, tranquille quoi. Mm-hmm. Merci beaucoup Stéphane, c'est très apprécié.
Merci beaucoup.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.
Swans Avenue, African music for the party. Bully let you go, ma. Stuck a wall and see. Break your body, I want to see. But the moment, pull your mask in and never know, no. Everybody colo, 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 colo. So tell everybody, patingi is mandate. Uli lechi koma, modo, pata ye modo. Tell everybody, patingi is mandate. Uli lechi koma, modo, si, pata ye modo.
Azawi, Azawi, Party Wood, c'est le titre de la pièce et le nom de l'artiste, c'est Azawi, la phobite. Voilà, avant de passer à la prochaine pièce musicale, je vais parler un peu de la situation qui prévaut actuellement. En Allemagne, opération policière après des menaces de mort d'anti-vaccins. Ça va très loin maintenant. Hein. Oui, et des gens comme ça. La radicalisation des anti-vax récupérée par l'extrême droite inquiète les services de sécurité. Voilà, donc la justice avait ouvert une enquête contre les usagers d'un groupe Telegram dans la suite d'une enquête de la chaîne de télévision publique ZDF qui était parvenu à infiltrer l'un de ces groupes. Voilà, une centaine de membres refusant le vaccin anti-Covid appelés à s'opposer si c'est nécessaire par les armes aux mesures sanitaires. Alors, ça, la police, le gouvernement ne peut pas laisser tomber ça, donc la police. Donc, selon la police, les soupçons à l'encontre du groupe ont été confirmés par les perquisitions menées de aujourd'hui, 15 décembre, au matin, contre 5 bâtiments dans la région de Dresde et de Adenau. Et puis, des armes ont été saisies d'ailleurs. Et puis, des arbalètes, c'est des genres d'anciennes armes à force, sous forme, comme les arcs. Voilà. Donc, début décembre d'ailleurs, des antivax cagoulés avaient défilé au flambeau devant le logement de la ministre de la Santé de Saxe. C'est la région d'une région, dans une mise en scène qui rappelle le Troisième Reich. Alors, après ces menaces de mort, le nouveau chancelier allemand Olaf Scholz a promis mercredi, aujourd'hui, de mobiliser les moyens de l'État face à une minorité d'extrémistes antivaxés. Ce qui existe aussi aujourd'hui en Allemagne, c'est le déni de la réalité, les histoires de conspiration absurde, la désinformation délibérée et l'extrémisme violent. Voilà, déploré devant au Parlement d'ailleurs le nouveau chancelier Scholz, permettant une riposte utilisant tous les moyens de notre État de droit démocratique. Donc la radicalisation des anti-vaxeurs. Récupéré par les extrêmes droites d'ailleurs, qui inquiètent les services de sécurité. Et selon les rapports du SPD, 15 000 à 20 000 opposants aux mesures sanitaires seraient prêts à recourir à la violence. Ça fait peur, hein? Oui, ce n'est plus de la blague, là. Ce n'est plus dit, non, je suis contre le vaccin, mais ça va aller jusque-là, jusqu'aux attaques personnelles physiques des élus. Allez-y comprendre quelque chose. Dans ce cas, noisette, ça se passe pour l'instant en Allemagne. Voilà, faut pas que ça arrive chez nous ici. Voilà. Dans ce cas, noisette, le voyage de Clara à la salle Wilfrid Pelletier. Il y a plusieurs dates disponibles. Hein, ouais. Puisque ça pouvait pas faire participer les enfants de moins de 12 ans dans le spectacle cette année, les grands ballets en présentent une version inédite de cas noisette pour le temps des fêtes de 2021. Première partie, toute nouvelle création et doux parfum l'innocence de la gaieté enfantine. Deuxième partie du programme, retrouver l'émerveillement de la féerie du deuxième acte de Casse-Noisette de Fernand, Casse-Noisette de Fernand Nolte et de Tchaïkovski avec le voyage de Clara. Voilà, ça c'est quoi? Ça commence au décembre, 16 décembre, jeudi, 19h30, c'est demain. Voilà, ça commence. Oui, et puis bon, ben, vendredi 17 à 19h30, tous les jours, hein, presque. Samedi 18 à 14h, ça c'est pour les familles, là, les enfants qui ne peuvent pas sortir le soir. Là. Et bien, allez-y sur le site, là-bas, vous allez tout découvrir de danse-danse, vous allez découvrir toute la programmation. Et puis, faites profiter à vos petits. Et puis, vous aussi, profitez-en, parce que de toute façon, quel que soit l'âge, on est toujours enfant. Qu'est-ce que vous voulez? On termine en beauté cette première partie de l'émission avec G.S. Ondara, Television Girl. Everybody there told me
didn't care much about my health, didn't care much about my health. Everybody there told me this girl, she ain't good for you, yeah. She ain't good for you.
GS Ondara, Television Girl. Restez à l'écoute, je vous reviens juste après la petite pause publicitaire avec notre invitée Geneviève Lavoie qui va nous parler des traces d'animaux du Québec. Voilà, jeune explorateur qui guide d'identification des traces d'animaux en forêt. Allez, à tout de suite. Si vous voulez en savoir plus, restez à l'écoute.
Escale 17-18 avec Fulgence Blas.
I don't wanna lie, can we be honest? Right now while you're sitting on my chest, I don't know what I'd do without your comfort. If you really go first, if you really left, I don't know if I would be alive today. Without you like night and day, we didn't repeat every conversation. Being with you every day is a Saturday, but every Sunday you got me pray. Don't you ever leave me and don't you ever go. I've seen it on TV, I know how it goes. Even when you're angry, even when I'm cold, don't you ever leave me. See your face light up my phone. Never see you singing Tiny Dancer. Every time my head hurts, every time I'm low. 'Cause I don't know if I would be alive today. With or without you like night and day. Everything about you uncomplicated. Here with you every day is a Saturday. But every Sunday you got me praying. Don't you ever leave me, don't you ever go. I've seen it on TV, I know how it goes. Even when you're angry, even when I'm cold, don't you ever leave me. Don't leave me alone.
don't you ever go. Don't you ever leave me. No. Don't you ever leave.
Ça, c'est le grand David Guetta avec la complicité de Anne-Marie, Don't Leave Me Alone. Voilà, notre invité déjà au bout du fil, Geneviève Lavoie, avec la complicité de son collègue Mathieu Hébert et de l'école de survie, les primitifs, elle va nous dire ce que c'est, qui t'aide à reconnaître les traces et les signes laissés par les animaux du Québec en forêt. Voilà, de l'identification des espèces à l'interprétation des mouvements, été comme hiver, à l'intérieur comme à l'extérieur. Tu peux apprendre la science du pistage. Apprends à devenir un pisteur. Alors là, je ne sais pas si je peux compter sur Geneviève pour devenir un pisteur. Et un vrai détective de la nature en prenant des notes, en dessinant des croquis, récolte les trésors de la nature pour ton propre musée d'histoire naturelle. Traces d'animaux du Québec, écrit par Mathieu Hébert et Geneviève Lavoie. Bonjour Geneviève Lavoie.
Oui, bonjour.
Comment allez-vous?
Ça va super bien, et vous?
Je vais très bien là. J'avais hâte de vous recevoir et de nous dire, mais qu'est-ce que, je sais pas ce qui vous a, la mouche qui vous a piqué, vous et Mathieu. Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes mis à tracer la piste, les traces des pattes d'animaux en forêt du Québec?
Mais en fait, c'est avec toutes les heures que j'ai passées.
En plus, là, on va revenir sur ça. On va passer. Qu'est-ce
okay.
que. On va voir. Mais je sais que j'ai dit, mais ça, c'est un travail de fourmi!
Oui, absolument. Ça nous a pris 2 ans à écrire comme petit bouquin. Là, c'est vraiment très complet.
Oui. Bravo. Félicitations.
Merci.
Pour le temps que vous avez mis. Et tout. Vous deux, vous et Mathieu Hébert. Et puis, bon, ben, je me suis dit, même 2 ans, je trouve que ça allait vite. Mais je me suis dit, mais ça, ils ont mis 3-4 ans.
Ben, en fait, non. On aurait pu mettre beaucoup plus de temps. On était quand même limité à choisir des animaux.
Oui.
Donc, il y a certains animaux qu'on n'a pas pu couvrir dans le bouquin, comme l'ours polaire, parce qu'il y a quand même beaucoup moins de chances qu'on croise un ours polaire en Beauce ou en Mauricie. Mais donc, on a fait des choix. Puis, on a décidé d'ajouter aussi quelques animaux domestiques, comme les chats et les chiens.
Oui.
Parce que comme
oui.
c'est un livre pour les enfants et même les grands-enfants...
Attention, j'adore oui. votre livre. Je ne suis pas un enfant, mais Geneviève, j'adore votre livre.
Mais c'est ça, c'est un livre pour tous les enfants et ceux qui ont gardé leur cœur d'enfant.
Donc, j'ai gardé mon cœur d'enfant.
Génial.
Alors, je me suis dit, alors là, avant d'aller dans... C'est quoi les primitifs, là, les primitifs de dont vous parlez, de survie, l'école de survie, les primitifs, c'est quoi?
Oui, donc les primitifs, ça a été fondé il y a 15 ans par
oui.
Mon collègue Mathieu Hébert.
Oui.
Et lui était un passionné de survie. Et puis, il a découvert la survie un peu qu'on appelle primitive, où est-ce que c'est plus une question de vie en forêt plutôt que de survie. Donc, c'est comment retrouver le savoir-faire ancestral, comment se sentir bien dans la forêt, comment cesser d'avoir peur, comment utiliser tous les outils qui nous ont permis de devenir les humains qu'on est devenus aujourd'hui. Donc, faire des abris avec aucun couteau, aucune corde. Comment faire du feu par friction? Vous savez, là, la méthode où est-ce qu'on frotte des bâtons de bois ensemble pour créer du feu.
Oui, ou bien des cailloux, des pierres.
Oui, c'est ça, exactement. Donc, on réapprend ce savoir-faire-là aux gens dans le cadre de formation qui dure 1 ou 2 journées. On va donner des cours de poterie, de vannerie, de pistage également. On enseigne les plantes comestibles, médicinales, comment fabriquer des arcs et des flèches. Donc, les possibilités sont infinies Donc, aussitôt qu'on touche au sujet de la nature, pour nous, c'est notre plus grande passion.
Wow! Wow! L'école de survie, les primitifs.
Oui.
Il va falloir qu'on en reparle. Il va falloir que j'aille... Vous avez un site web, bien sûr.
Oui, oui, absolument. Mais quoi de mieux que de venir faire une formation?
Oui. Oh, non, non, non. Parce que je ne suis pas du tout manuel. Et puis bon, là, j'adore la forêt. Mais mm-hmm. ce que je n'aime pas, c'est les gros, c'est les grosses bêtes comme les ours.
Ah oui, pourquoi?
Je ne sais pas. J'ai la...
Mais pourtant, quand ce j'entends... sont des animaux fantastiques puis vraiment fascinants. Donc, on a beaucoup à apprendre des ours, la manière dont ils s'abritent, comment ils élèvent leurs petits, qu'est-ce qu'ils mangent. Donc, c'est toujours très intéressant de se retrouver à découvrir les mystères. Puis, dans le fond, on a peur des choses qu'on ne connaît pas. Et puis, les gens ont peur
c'est
des
vrai,
ours.
C'est vrai, parce que quand mais... j'entends le mot ours, simplement, je mets mes jambes au cou. Je
suis pas... oui. mais les ours ont encore plus peur de nous. Que nous, on a peur d'eux.
Ne me racontez pas des choses à me faire dormir debout.
Mais non, c'est vrai, c'est vrai. Puis c'est très rare qu'on va croiser un ours en forêt parce que les ours, je ne sais pas si vous saviez, mais ils ont un odorat 30 fois plus développé que les chiens.
Quand ils nous donc sentent et puis ils s'éloignent.
Oui, oui, on sait que les chiens ont un odorat très développé. Là, on les utilise d'ailleurs pour travailler là, dans les aéroports ou c'est pour détecter des bombes. Ils ont vraiment un odorat très, très puissant, mais les ours sentent 30 fois mieux que les canidés.
Ah bon?
Donc, c'est pour ça qu'on les voit pas. Ils nous sentent de très, très loin.
Là, vous
c'est comme des fantômes dans la forêt.
Oui, j'adore être en nature. J'ai un citadin, mais qui aime sortir en fin de semaine, aller en nature, surtout en été. Mais avant de sortir, je me renseigne, est-ce qu'il y a des ours dans cette région? Quand on me dit oui, je vais plus. Parce que j'ai toujours peur d'en croiser. Je saurais même pas comment me comporter si je croisais un ours. J'ai déjà vu des vidéos qui, on dit, faut pas bouger. Il faut rester calme, garder son sang-froid, et quand tu recules, il faut pas... J'ai dit, mais non, 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 moi, là, le fait même de savoir qu'il y a un ours qui est là, je vais paniquer, je vais me mettre à crier, et c'est ça qui va l'exciter à me poursuivre.
Mais j'ai une solution pour vous.
Voilà, dites-moi,
en fait,
Geneviève.
C'est très, très simple. Vous pouvez aller dans ces endroits-là l'hiver, parce que les ours dorment.
Ah, là, là. Donc...
Il n'y a pas de danger.
Ils sont en hiver, monsieur. Ouais, c'est vrai, je comprends. On revient sur le livre. Alors moi, personnellement, ce livre-là, je ne sais pas, mais il y a des animaux que j'ai découverts là-dedans que je ne connaissais pas du tout. Mais comment vous êtes pris? Comment vous avez commencé le travail? Dites-moi un peu.
Oh ben, en fait, pour le livre, ça a été des heures et des heures de recherche.
Oui.
Mais nous, comme on enseignait déjà le pistage depuis plusieurs années, moi, j'ai reçu plusieurs formations aux États-Unis. J'ai plus de 900 heures de formation en tant que pisteuse professionnelle aux États-Unis.
Oui.
Et puis, on est quand même un peu en retard au Québec. Le pistage animalier, mais ça commence à se développer.
Grâce à vous et votre complice, votre collègue Mathieu.
Oui, oui, exactement. Mmh. Mais c'est ça. Donc, nous, on est allé chercher plusieurs ouvrages de référence et on a fait beaucoup d'études de terrain, de travail, d'expérimentation, de mesures, de recherche. Donc, c'est des années de travail. Outrepasser le fait que ça nous a pris 2 ans à écrire comme bouquin,
oui.
Ça a été vraiment beaucoup d'heures de terrain et de mesures, de prise de photos, puis d'identification de traces et de signes. C'est un travail qu'on fait sans arrêt. Même ce matin, j'étais encore en train de pister le porc-épic.
Ah, vous dormez pistage, alors? Quand vous rêvez, c'est toujours pistage. Mais...
J'en mange.
Est-ce qu'il y a des animaux qui vous font peur, vous, Geneviève?
Ben, en fait, oui. Là, j'aimerais pas se croiser un ours polaire.
Ah, non! OK. Non, l'ours noir, l'ours... Je devais comment l'autre, l'ours gris, vous n'avez pas peur de ça?
L'ours noir, non, non, j'ai pas peur de l'ours noir. J'en ai croisé à plusieurs reprises dans ma carrière. Et
dans
puis,
votre carrière,
j'ai pas peur des ours.
Non, j'aimerais pas être à votre place en tout cas. J'allais courir.
Moi, je suis bien à ma place.
Je comprends,
je
comprends.
C'est ton rôle.
Voilà, on fait une petite pause musicale et puis on vous revient, Geneviève.
Parfait, à tantôt.
Merci.
J'ai rêvé cette nuit que tu dansais au milieu d'une terre brûlée, comme si les pas t'appartenaient, comme si tu les avais inventés. Mmh.
avec les jours ronds. Des mains qui n'ont pas peur du froid. Des yeux qui tremblent sur le monde. Mais des mots qui ne viennent pas. Dis-moi comment tu plantais la neige. Comment nous sommes faits de pierre. Je veux t'écrire une chanson pour te rappeler ton nom. Ton vieux nom. Les chiens n'entrent plus à la tombée du jour. Et dehors les lunes hurlent à la mer. Les oiseaux quittent tour à tour. Toi, tu dessines des tempêtes. Tu restes là, cloué au sol. La blessure au bord de l'air. Et si ton cri lançait la révolte, mes jambes tremblent quand tu te soulèves. Sur la baie, j'ai brisé les lois, un seul incendie. On n'est pas venu au monde se consacrer à la misère. Les maisons qui logeaient nos vices, je les ai démolies. Faut bien donner.
Aula itako ulumin tapo yaktilbo metem pesa kala ko simagama chinet chinet mo bende ngani mo palok taka ata ata kan anara kan lon kala kama chiani ulam sam kala ko simagama
douceur. Voilà, notre invité est toujours avec nous, Geneviève Lavoie, avec la complicité de son collègue Mathieu Hébé, qui nous ont sorti ce livre « Traces d'animaux du Québec ». C'est un guide d'identification pour les explorateurs, pour les jeunes explorateurs. Mais, c'est pour tout le monde. J'ai eu quelques informations qui me disent que le stock a déjà été épuisé, si je ne me trompe pas. Geneviève, corrigez-moi si je me trompe.
Mais non, en fait, toutes les copies ont été vendues, effectivement. Donc, en fait, au niveau de l'éditeur, donc, mais il doit rester des copies dans certaines librairies.
Oui.
Donc, si les gens font des recherches et appellent dans leur librairie, là, les petites librairies indépendantes, il doit en avoir encore.
Il doit en avoir encore. Mais est-ce que l'éditeur est en train de rééditer, de faire un nouveau... Ouais, parce qu'il pourra son stock à lui, quoi.
Oui, absolument. Donc, on est en processus... on attend, en fait. Je crois qu'il a déjà été imprimé, mais on est en attente de le recevoir ou il est en processus d'impression. Il y a des délais supplémentaires, malheureusement, à cause de la pandémie.
Oui.
Et on est très, très fiers, là, parce que ça fait seulement un an que le livre est sorti.
Oui.
Puis on savait que ça allait être très populaire parce qu'il n'y avait pas de livre.
Je m'apprêtais à vous demander si vous étiez surprise par cet engouement. cet intérêt.
On savait, on a conçu ce livre-là pour qu'il soit un format de poche.
Oui.
Donc, facilement traînable, contrairement aux autres livres de pistache qui existent dans les librairies. Là, celui-là, on peut le traîner très facilement.
Oui, il passe dans la poche d'un veston, d'un manteau. On n'a pas besoin forcément d'un sac pour l'avoir sur soi. On est assis dans le bus, dans le métro, et puis on le feuillette ou bien. Voilà, c'est tellement bien fait. Je me suis dit, waouh! Mais je ne serai jamais un spécialiste comme vous. Je serais un menteur de dire ça, mais ça me permet quand même de découvrir ces animaux que je connais. L'écureuil gris, lui, mais pourquoi il est souvent en ville, au fait? Parlez-nous un peu de ça, Geneviève.
Ah oui, c'est ça. Donc, c'est en fait parce que l'écureuil, lui, aussitôt qu'il y a des arbres, donc il peut trouver de la nourriture. L'écureuil gris va se nourrir nécessairement de glands de chêne, de samare. Il peut parfois se nourrir de cônes, les cocottes, des conifères. Mais généralement, il va se nourrir principalement aussi des fruits, des arbres qui sont feuillus.
Oui.
Donc, comme les gens plantent beaucoup de feuillus, il y a beaucoup de feuillus dans les parcs. Vous savez, à Montréal, là, si on va dans les grands parcs, là, il y a beaucoup d'arbres, donc il y a beaucoup d'écureuils. Puis les gens les nourrissent aussi, donc ils sont très, très à l'aise à la proximité des humains.
Ah, c'est ce qui fait qu'ils sont avec nous en ville, d'ailleurs.
C'est ça. On n'a pas besoin de connaître tous les animaux nécessairement. Je pense que de connaître une base, ça nous permet d'apprécier encore plus la nature.
Oui.
Mais effectivement, les gens qui habitent dans les villes, ben, ils peuvent croiser parfois des ratons laveurs,
oui,
des moufettes. Il peut même y avoir des renards. Moi, à l'époque où j'habitais dans la région métropolitaine,
oui,
il y avait souvent un renard qui venait près de chez moi. Il y a toutes sortes de petits animaux qu'on pourrait quand même croiser.
Un renard? Même...
Oui, oui, tout à fait.
En pleine ville?
Mais oui, absolument. Les renards sont... Je pense que j'en parle dans le bouquin, d'ailleurs, parce que le renard, c'est un de mes animaux favoris. Il est à l'aise autant en ville qu'en nature. Donc, il est très rusé.
Oui, oui, oui. On va parler un peu de l'ours noir.
Oui, vous voulez que je parle de l'ours noir encore?
Oui, oui. Lui, avec son pelage noir, peut avoir une tache blanche sur la poitrine.
Oui, pour les mâles. Les vieux mâles vont avoir une tache blanche parfois sur la poitrine.
Oui.
Donc, c'est ça, mais seulement les mâles.
Il est omnivore.
Oui, omnivore. Donc, ça veut dire qu'il va se nourrir autant de viande que de petits fruits.
Oui.
On sait, là, on a tous entendu parler là, des ours qui vont manger des bleuets. Donc, effectivement, les ours adorent se nourrir de petits fruits, surtout à l'automne.
Oui.
Parce qu'ils doivent engraisser pour passer l'hiver. Parce qu'ils vont dormir, ils vont vivre sur leurs réserves. Vous savez que les femelles mettent bas, donc elles accouchent de leur bébé dans leur tanière, dans leur cachette pendant l'hiver.
Oui.
Donc ça demande encore beaucoup plus d'énergie pour la femelle. Et c'est pour ça qu'elles deviennent très protectrices au printemps.
Oui.
Et je voudrais qu'il n'y a pas nécessairement de danger avec les ours en général. Mais c'est sûr que si vous voyez des oursons, des bébés ours, il faut être un peu plus prudent, là, parce que c'est sûr que la mère va être dans les environs,
oh,
et puis elle va devenir protectrice.
Oh.
Sinon, les ours, vous n'allez pas en croiser. Là,
je ne me le souhaite pas. Geneviève, je ne me le souhaite pas. Voilà.
Bon, mais avouez que c'est quand même un bel animal.
Oui, j'aime voir ça de loin dans sa nature, au zoo ou bien quelque part, en photo ou bien dans une vidéo. Mais...
Il est majestueux comme animal. J'adore les ours.
Non, j'aimerais pas me rapprocher. Quoi. Mais je ne savais pas qu'il y avait des porcs-épics au Québec.
Ah oui, absolument. En fait, le Québec est très réputé pour ses porcs-épics parce que si on descend même un petit peu plus dans le sud, là, il n'y en a plus de porcs-épics. Donc, moi, j'ai des amis avant la pandémie là, qui venaient des États-Unis puis ils trouvaient que c'était tellement exotique qu'on ait des porcs-épics. Puis encore là, les gens ont peur des porcs-épics parce qu'ils disent on va se faire attaquer par le porc-épic. Mais en fait, c'est faux. Le porc-épic ne va pas attaquer.
Il lance ses fléchettes là, quand il se sent en danger.
Et ça, justement, ça, c'est un mythe. Il lance pas du tout ses piquants. C'est qu'il doit frapper avec sa queue pour dégager les piquants.
Ah.
Mais les piquants, là, ils vont pas s'envoler, là. Ça va pas être comme des sarbacanes. Donc, mais le porc-épic, lui, il sait qu'il y a une espèce de protection, une forme d'armure avec, sous forme de piquants.
Oui.
Et c'est pour ça que si on se promène, là, sur les grandes routes au Québec, là, les autoroutes, on va voir souvent des porc-épics ou des moufettes qui sont écrasées, malheureusement.
Oh oui.
Parce que eux, leur système de défense, c'est de figer. Ce ne sont pas des animaux qui courent très, très rapidement.
Ils marchent lentement.
Leur système de défense, c'est qu'ils savent qu'ils peuvent arroser dans le cas des moufettes ou encore piquer dans le cas des porcs-épics.
Oui.
Donc, c'est pour ça qu'ils figent et ils sont frappés plus régulièrement par les voitures, contrairement aux autres animaux qui vont décamper.
Les gars qui arrivent à se sauver rapidement.
C'est ça, exactement.
Il y a une particularité avec le porc-épic, c'est ses 4 doigts aux pattes avant et 5 doigts aux pattes arrière.
Oui, exact.
C'est fascinant, ça.
Oui, oui, comme les écureuils, en fait, comme les rongeurs.
Attendez. Les écureuils que je vois tout le temps, là, n'ont pas les mêmes nombres de doigts en avant et en arrière?
Exact.
J'ai jamais compté, alors là, vous m'apprenez quelque chose.
Ah, ben là, faudrait...
C'est dans le livre, c'est dans votre livre que j'ai découvert ça, d'ailleurs, en disant, j'ai dit, mais OK. Non, ce livre-là va plus me quitter, là. Il faut que j'apprenne tout sur les animaux, là. Bon, il nous reste quelques secondes, là. Un dernier mot à ceux qui vont acheter ce livre, quel est le conseil que vous leur donnez quand ils se retrouvent en forêt pour pouvoir retrouver les traces des animaux?
Ben, je vous dirais, avec ce livre-là, prenez le temps de le feuilleter à la maison et dessinez les traces, parce que faire des dessins,
oui,
c'est une excellente façon d'ancrer les connaissances plutôt que de juste regarder en reproduisant les dessins.
On ne va pas devenir des spécialistes comme Geneviève Lavoie et Mathieu Hubeck.
Mais c'est une forme de langage, le pistage.
Wow.
C'est le langage de la nature.
Et votre école se trouve où?
Donc, nous, on est nomades. On enseigne un peu partout au
Québec.
Un peu
partout au Québec, oui.
Oui, même aux États-Unis, quand on a la chance.
Toujours en déplacement.
Oui, exact. Mais les gens peuvent aller voir sur notre site Internet.
Oui, donnez le lien, s'il vous plaît.
Oui, ça me fait plaisir. Donc, c'est lesprimitifs.com.
Oui. Wow.
Tout simplement.
Merci beaucoup, Geneviève Lavoie. Dites merci à Mathieu de ma part.
Oui, promis.
Et puis, au plaisir de voir... J'espère qu'il va avoir un tome 2.
Oui, ben en fait, je suis en train d'écrire un autre bouquin présentement, mais c'est sur les plantes.
Sur les plantes, cette fois-ci.
Donc, vous allez me réinviter?
Oh oui, j'ai pas peur des plantes. Voilà. Aucune plante ne m'effraie.
On en reparlera ensemble.
Merci beaucoup, Geneviève Lavoie.
Merci à vous, c'est un grand plaisir.
Joyeuse fête à vous et à vos proches.
Vous aussi.
Au revoir.
Okay. Au revoir.
Ouais. À la fin de l'émission comme ça, on termine en beauté avec cette belle pièce de Janet Harris, The Way It Feels. Merci à toi, Nicolas. Oui, on se retrouve demain. Voilà, je dirais pas la semaine prochaine, demain à la même heure. Merci à Stéphane Bourdi qui est venu nous parler de Parc Maisonneuve. Et merci à Geneviève Lavoie qui est venue nous parler du guide d'identification, du livre d'identification traces d'animaux du Québec avec la complicité de son collègue Mathieu Hébert. Merci à vous, chers auditeurs et auditrices, de votre fidélité. On se retrouve demain sur les ondes du Canal M. Et sur ce, je vous dis ciao. Termine en beauté avec Janet Harris de Whitfield. À demain.